peut-être l'air confondu.
Vous avez tout fait.
Ah,
hein? Vous avez tout fait.
Et alors prenez, si vous voulez, le premier groupe de versets. Voilà comment on va procéder. Je vais tout simplement demander à quelqu'un, si quelqu'un a une idée concernant la question que je vous ai posée. Je vous rappelle la question. C'est qu'il y a, d'une façon générale, dans le récit de Maase et de Bereshit, Charles aussi, il y a, d'une façon générale, dans le récit de Maase et de Bereshit, un décalage dans la formulation des versets qui indiquent le projet pour chaque jour, de la création de chaque jour, et d'autre part, des versets qui indiquent la formulation de la réalisation. C'est clair? Bon. Qui se rappelle d'ailleurs quel est le mot qui revient dans... Oui. Alors, qui peut expliquer un seul à la fois? Quel était le problème qu'il y a là? Je vais essayer de vous expliquer ce que je vous demande dans ma question. Essayez de parler à quelqu'un à qui vous devez faire découvrir et la question et la réponse, et non pas de me répondre à moi. Moi, je suis censé savoir ce que je vous ai dit. Mais de parler à quelqu'un qui ne serait pas au courant du problème, faire une sorte d'exercice pédagogique et que ce soit clair. Vous avez compris ma question? Alors, qui peut expliquer ce problème de Bayichen en parlant à quelqu'un qui ne sait pas de quoi il s'agit? C'est d'abord un problème simple de traduction. Vous partez de la confrontation avec la traduction habituelle et vous expliquez quel est le sens exact. Mais n'ayez pas peur. Toutes les choses sont difficiles au commencement et il faut juste commencer. Bon, je désigne un volontaire. Personne n'a une idée comment expliquer ça? Alors, essayez. Bon, tu vas essayer toi.
La traduction qu'on donne dans Rachid ou qu'on donne autre part, c'est Rachid. La traduction qu'on donne dans le Rachid. C'est et il en fut ainsi. Et il en fut ainsi, ça veut dire qu'il y aurait égalité. On pourrait penser qu'il y aurait égalité entre
c'est pas nous.
Et qu'il y aurait équivalence entre.
Équivalence, c'est de...
Concordance.
Regardez. Égalité, c'est quand c'est vraiment égal. Concordance, équivalence, ça veut dire que ce n'est pas vraiment égal. Or, adéquation, tout simplement, que c'est la même chose. Allez, donnez-moi un exemple. Un exemple. Voilà. Au premier jour, il y a Yéior, qui est lumière. Qu'est-ce qu'il y a eu? Vaïhi, lumière. Donc, c'est la même chose. Bon. Est-ce que cette lumière, c'est vraiment la même intensité de lumière, la même clarté de lumière, c'est notre problème. Mais au moins, c'est de la lumière qu'il y a eu. Tandis que tous les autres jours, il n'y a pas le mot qui est dit dans le projet, mais il y a Vaïhichem. Alors, donnez-moi un exemple. Par exemple, dans le jour là où vous êtes, c'est le troisième jour, ok?
De l'arbre.
Alors, dis-moi un exemple.
Alors, il dit à la terre, de faire un...
Vous avez entendu, je dis de me dire...
Non, je vais dire, voilà, ex peri o seperi.
Ex peri o seperi, ça c'est dans le projet.
Dans le projet. Et mayotse, c'est ex o seperi.
Vous voyez qu'il y a une différence.
Alors, dans Vaïchet,
ça c'est un exemple de Vaïchet. Vaïchet, ça veut dire donc...
Il n'en fut qu'ainsi.
C'est-à-dire...
Pas tout à fait la même chose.
À peu près. Très, très. Bon, alors on va prendre... C'est clair?
Alors, est-ce que tu pourrais un petit peu plus rentrer dans ce Vaïchem lui-même, dans le monde lui-même, plutôt que par référence à au sophisme?
Tu veux dire du point de vue linguistique?
Oui, c'est ça.
Bon. Chem, ça se rattache à une racine dont finalement vient un mot que vous apprendrez dans le plan, qui signifie sincérité, dans le sens de conforme. Par exemple, pour dire sincère en hébreu, on va prendre sincère. Okay? On va se servir d'un mot qui vient de cette racine. Nahon. Oui, Nahon. Et finalement, dans l'hébreu moderne, mais ça vient depuis très longtemps, pour dire oui, on dit Ken. C'est ce même mot. Mais l'équivalence de sens dans notre problème, c'est comme s'il y avait écrit Kemo, qui signifie comme. Alors voilà, vous faites l'analyse de cette notion-là. Si on n'y prend pas garde, Comme, ça veut dire que c'est... Comme, ça veut dire que c'est exactement la même chose. Mais dans le sens strict, ça veut dire que c'est analogue. Alors, l'idée philosophique qu'il y a, la catégorie philosophique qu'il y a dans ce problème, c'est la notion d'approximation. Vous pouvez analyser cette notion-là, ça sera, cette notion-là, ça sera peut-être plus clair pour vous. Approximation. Alors voilà les deux éléments qu'il y a. Il y a un élément positif de proximité. La proximité, c'est positif. Plus c'est proche et plus c'est adéquat, mais c'est des degrés. Hein? La proximité, c'est positif. Alors que l'approximation, c'est négatif. Et c'est clair? Quand c'est uniquement à peu près approximation. Mais quel est le caractère positif? C'est que c'est très près, mais pas suffisamment. Alors si vous voulez, on va un peu analyser cette notion-là, et dans différents niveaux de compréhension. Et, par exemple, le problème de la vérité et de l'erreur. Il y a des erreurs plus ou moins loin, ou plus ou moins près de la vérité. Vous avez compris? Voilà un exemple de problème où cette catégorie va jouer. Quelle est l'erreur la plus dangereuse? Celle qui est loin de la vérité ou celle qui est proche de la vérité? Voilà, vous raisonnez droit. Bon, je vous ai peut-être un peu induit la réponse. Vous voyez, par exemple, si un jour vous étudiez le problème des hérésies, en théologie, le problème des hérésies, bon, ben dans ce cas, l'hérétique, c'est celui qui est le plus proche. Alors on s'occupe de lui. Et s'il était loin, on s'occuperait pas de lui. Est-ce que vous comprenez le problème? C'est une espèce de paradoxe que, après tout, dans le monde chrétien, un catholique et un protestant, les deux, c'est des chrétiens. Et pourtant, un est hérétique par rapport à l'autre. Pourquoi? Parce qu'ils sont très proches l'un de l'autre, mais pas suffisamment. Vous voyez, l'erreur la plus dangereuse, c'est celle qui est la plus proche. Vous voyez, l'ambiguïté de l'approximation. Quel est notre problème à nous dans ma cédologie? C'est un problème beaucoup plus total, beaucoup plus absolu, beaucoup plus important, c'est le problème du décalage entre la vérité et la réalité. Et, est-ce que c'est clair? La réalité n'est que le règne de la vérité. Voilà notre problème. Vous avez mieux compris?
J'ai bien entendu le terme de... c'est quasi.
Quasi. Quasi, c'est le mot latin. Quasi, c'est le mot latin qui traduit exactement crème. Et il en fut quasi comme ça. Non, en latin, il n'y a pas de problème. Et, c'est clair? Oui, pas de problème. Alors, vous avez quelques exemples où la Torah dit très clairement ce décalage. Et ça, c'est un exemple classique. On va dire que c'est de Rashi à ce propos. On n'aura pas le temps d'étudier ça aujourd'hui en détail. Mais vous montrez qu'il y a certains indices qui affleurent dans le texte où opère ce vaïchen. Par exemple, dans le projet concernant la végétation. Le troisième. Pourquoi c'est important? Parce que la végétation, en fin de compte, c'est le commencement du problème de la nourriture de l'homme. Et tout se passe comme si nous allons découvrir un problème concernant la nourriture, et c'est le début d'un problème énorme dans l'histoire humaine, le problème économique. Il y a un décalage entre le projet et la réalisation concernant la nourriture. Alors ça nous est donné dans un indice, mais c'est le point de départ, enfin le début d'un film qui va nous mener très loin. Vous comprenez l'organisation des choses. Okay. Pourquoi Rashi va s'occuper d'un petit décalage dans le texte entre Esperi, vous avez tous compris maintenant les mots hébreux, un arbre qui serait fruit lui-même, Esperi, un arbre fruit. Okay. Et d'ailleurs, je vous dis une petite parenthèse, c'est important, dans toutes les traditions, on cherche cette nourriture par excellence qui est de l'ordre de arbre-fruit. C'est-à-dire que, c'est clair, et alors, elle a dans toutes les traditions, par exemple, je me souviens d'avoir étudié ça dans une petite société de l'Amérique centrale, c'est la réglisse. Voilà. Alors la réglisse, c'est un arbre divin. Pourquoi? Parce qu'il est arbre-fruit. Ça y est, vous voyez, ça cherche. Bien. Et dans le folklore juif, quel est l'arbre-fruit? Très bien. Vous saviez déjà ou vous avez trouvé même? Le cédra, l'étrope de Sukkot. Hein? Vous savez que c'est un fruit qui ne se pourrit jamais. Il y a un mystère dans ce fruit-là. Il ne se pourrit pas. Et alors, ça vous permettra d'organiser les sources dans le Midrash où chaque fois qu'on veut dire l'évidence que c'est le Créateur qui a créé ce monde-là, on l'a au moins sur un point, le Sefra.
Qu'est-ce que ça veut dire
un flot
dans
ce pays?
Moi j'ai des
idées
trop vides, tout possible.
Ah, il n'est pas pourri, il se
dessèche. Et la
grenade
aussi,
non, ça pourrit.
Un
peu moins que les autres fruits de la grenade d'ailleurs. Il y a aussi des problèmes avec la grenade. mais par excellence, c'est rétrograde. Vous comprenez? Je vous donne un exemple. Dans un tout autre domaine. Un jour vous allez visiter là. Bon, vous allez rentrer dans l'aquarium. Et vous allez voir ces formes enchantées, des poissons colorés, on se croirait au Gan Eden. Voilà, voilà un cèdre quelque part. Vous avez là, il y a un petit clin d'œil. Ah, ce monde-là a dû avoir un artiste. Vous voyez comment ça marche? Bon, c'est clair. On est la première fois qu'on voit ça, on est un peu étonné. Hein? Ça veut dire que le monde aurait pu être bien fait. Hein? Allez, vous avez un petit clin d'œil à elle. Bon, les Israéliens s'amènent avec leur sac de pique-nique. Et dans pas longtemps, tout ça, ça va être, comment dire, terrifié, rendu terre. Que... Non, pas les Israéliens, les touristes, quand même. Alors, voilà, dans la tradition juive, on a diagnostiqué cela avec le hétro. Lorsque la Torah nous donne une zone concernant le bouquet de la végétation, disons, comme ça provisoirement, on ne dit pas que c'est vraiment, on ne dit pas le mot cédra, hétro. On dit peri et hadar, un fruit d'arbre merveilleux, hadar, splendide. Alors on demande à n'importe quelle grand-mère, je vous tâche jamais le compte, on rentrait ça. Oui, va chez le juif à côté, demain c'est vrai, c'est ça. Mais on a trouvé ça dans toutes les traditions. Je me souviens de cette histoire de la Réunion, mais authentiquement, j'ai étudié ça en ethnologie. Les membres de cette société où l'arbre par excellence, l'arbre fruit par excellence, c'est la réglisse, considèrent que c'est une nourriture divine, sacrée. Ouais, qu'est-ce qu'on fait manger la réglisse? Comment on dit la réglisse?
L'étroite, c'est un arbre fruit, c'est un fruit.
Non, c'est un fruit.
Oui, mais ça n'a pas la notion de la réglisse.
D'accord, mais c'est un fruit qui montre qu'il est plus fruit que les autres semences.
Mais l'arbre reste un arbre.
L'arbre reste un arbre. Donc il doit se passer quelque chose dans cet arbre, puisqu'il y a des fruits comme ça. C'est-à-dire, Rachnia, l'idée que peut-être il a dû arriver quelque chose, ce décalage-là, que peut-être le monde aurait pu être coïncidence, la réalité et la vérité, on appelle ça en français parfait, okay? Un jour je vous analyserai ce mot-là, mais pas aujourd'hui, peut-être que le monde aurait pu être comme les enfants y rêvent, et comme les prophètes le voient. Alors, on rencontre ça avec le cédra, on rencontre ça et là, les poissons. Bon, mais pas seulement les poissons, d'ailleurs, les méduses. Les... Ken?
C'est quelque chose qui chiffonne avec cette réflexion. Vous comparez le chen comme réalité, avec par la formulation des alétères. Lorsqu'on lit un peu Rashi, à un moment donné, il nous dit justement avec ce arbre fruitier, l'arbre lui aussi doit avoir le goût du fruit, mais la terre a désobéi.
D'accord.
Ça veut dire donc que le chen, oui. C'est un désobéissant.
Attends, on n'est pas arrivé là. On n'est pas arrivé là. Je l'ai dit tout à l'heure, on va lire Rashi. Pour le moment, on explique le sens du mot. Okay? Et ça va nous être illustré par ce que dit Rashi dans cet exemple. Le deuxième exemple que je vais donner, on l'étudiera aujourd'hui. On réfléchira aussi quel problème il pose. Le décalage entre verset 24 et verset 25. Okay? Et ça, voilà un exemple qui illustre ça. Et maintenant, on va lire Rashi, on va voir ce qu'il y a dedans. La Midrash de Rashi. Bon, pour l'idée générale de ce décalage, est-ce que ça va? Vous avez là peut-être une atmosphère, pour ceux qui ont fait un peu de philosophie, une atmosphère un peu platonicienne. Enfin, ce n'est pas une atmosphère platonicienne. L'atmosphère de ce problème se relie un peu à la philosophie de Platon. Enfin, vous trouvez un thème analogue dans la philosophie de Platon. L'ombre et la lumière, la caverne.
Oui,
le monde des idées, qui est le monde de la vérité, et le monde des ombres, qui est le monde de la réalité. Vous voyez ? Si vous voulez avoir une illustration dans le vocabulaire philosophique, c'est un peu parallèle. Mais finalement, il s'agit d'une expérience immédiate. Nous portons en nous la représentation idéale, idéale du monde qui correspond au projet du Créateur, mais nous sommes insérés dans une réalité qui est en décalage. Voilà le problème. C'est clair? Bon, avant d'entrer dans l'exemple concret de Rashi, je veux quand même exploiter ça un peu d'une façon générale. Par postulat, disons, vous allez noter ce postulat quelque part, et nous verrons que dans beaucoup de problèmes, il y a une différence d'option entre la conscience hébraïque et les autres consciences des autres sociétés. La conscience hébraïque refuse d'acquiescer à ce décalage, refuse d'y consentir. Alors que dans les autres consciences, on parlera surtout de la réaction des Grecs à ce propos, quand on reprendra le problème de philosophie, on a vu le problème. On a espéré, désiré qu'il y ait une solution. On a renoncé à l'idée d'une solution. On consent, on... Et Romrim, l'Inkiaïch, on renonce.
Il désespère.
Et, on, et finalement, on... Comment dire, on acquiesce à cela. Sorso, tant pis, c'est comme ça. Je vous décris la réaction grecque. Hein. On n'y peut rien, on aurait bien voulu que ce soit autrement, mais on ne peut pas. En fin de compte, notre monde, le grec qui parle, est sous le sceau d'une dualité irrémédiable. Il n'y aura jamais de convergence entre l'idéal et la réalité. Vous voyez un peu la réaction grecque. Alors que la réaction hébraïque, c'est de, très lucidement de prendre acte. Il y a un décalage, et on n'en veut pas. Vous avez compris le problème? Vous voyez, c'est une différence d'options. Du point de vue du raisonnement par l'intelligence, on peut plaider les deux dossiers. Hein? Mais la différence n'est pas dans la capacité de raisonnement, dans la force de l'intelligence. La différence vient de plus profond, c'est une option de l'âme. L'âme hébraïque refuse cette dualité. L'âme grecque y consent. Et elle est tragique, elle y consent tragiquement. Elle est mélancolique de cela, je ne sais pas comment vous dire. Elle est atteinte de cela, mais n'y peut rien. Parce que, du point de vue de la raison, on n'y peut rien. Alors c'est au-delà de la raison que l'hébreu va dire, eh bien, non. Voilà, vous voyez la réaction, la folie hébraïque, comme disaient les Grecs. Lorsque les Grecs ont rencontré l'âme hébraïque, ils ont dit, ils sont fous. Okay? C'est ça la folie hébraïque. J'ai pas fini. Pour banaliser un peu cela, en fin de compte, cette option grecque, ça mène à quoi? Et où c'est grave? Parce que tant qu'on est dans le monde des idées, en cabinet de travail, c'est voilà. Quoique quand les livres sortent, des cabinets de travail, finalement ça fait des dégâts chez les lecteurs. Mais où c'est grave, c'est au niveau du problème moral. En fin de compte, une option dualiste va aboutir à des slogans de ce type, la justice n'est pas de tout. Vous voyez où c'est grave? Parce que c'est clair. Pourquoi? Parce que la justice, elle est là-haut, et puis ce monde, c'est les instincts. Et vous voyez à peu près le... Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a fait finalement? On est parti d'un problème de lecture, d'exégèse. Il fallait élucider une catégorie. Là, il y a un problème de traduction. Vous voyez, les traducteurs qui nous traduisent « et il en fut ainsi » dans le sens que « ainsi », ça veut dire c'est la même chose. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas les yeux pour voir que la Torah elle-même raconte qu'il n'en parle. Il n'en pas fut ainsi. Comment? Il n'en fut pas ainsi. Il n'en fut pas ainsi. Vous avez remarqué? Puisque dans le texte, c'est clair qu'il y a des décalages. Vous voyez? Donc on ne peut pas traduire « il en fut ainsi ». Sinon, dans le sens que « ainsi » avait dans l'ancien français et qui était le sens de « chen », « quasi », à peu près. Ça y est, c'est clair? Bon. Alors maintenant, on va s'empoigner avec le Rashi. Bon, tu as un Rashi sous les yeux. Alors regarde, tu vas le lire d'abord en hébreu, qu'on entend en hébreu. Et ensuite, on revient. Dans ton livre, là-bas, il est écrit en caractère carré avec des voyelles. Hein?
Non, non, non.
Ah non? Personne n'a un Rashi en caractère carré? Regardez s'il y en a un par là. Voilà, alors tu allais le là-dedans. Qu'on l'entende au moins une fois en hébreu, bien que Rachid est français, ça lui fera plaisir. Et puis, il dira la chose. Alors maintenant, on fait ce Rachid. Vous avez le Rachid sous les yeux. Même ceux qui ne savent pas lire, c'est pas grave. Votre âme sait lire. Alors lisez avec les yeux. Vous voyez? Alors maintenant, un peu de silence. C'est Rachid qui parle.
Michon, ou Nidom, Néa, Mitzraim.
Oui, bah oui. Oh, oui, Dieu, Dieu. Dieu d'Alem.
לא דשא לישון עשב ולא עשב לישון דשא.
לשון, זה פעל לשון, זה פעל לבויל. דייר, זה פעל לשיקון, אמין. זה פעל לבויל. Allez, traduis déjà. Non, tu lis dans ton... Laissez-le parler seul, habituez-vous à ça. Sinon on perd du temps. Tu y es ? Qu'est-ce que c'est ? Voilà. Alors traduisons littéralement, ça veut dire que dans le projet du Créateur, Dieu voulait que le goût taram du fruit soit comme le goût, non, que le goût de l'arbre soit comme le goût du fruit. Continue. Ça, c'est le projet.
Veillez
l'eau
asta.
Et elle. Elle qui.
Mais la terre a désobéi.
Oui, c'est mal traduit. Et la terre n'a pas fait cela. N'a pas fait comme ça. D'après, il faudrait dire asta achel. Top. T'as compris? Top. Alors, continue. Très bien. Alors, traduit.
Et elle a fait sortir des arbres faisant des fruits.
Oui.
Et non pas des arbres qui fussent eux-mêmes
des fruits. Jusque-là, quel est le problème qui se pose ? C'est le problème de l'idée d'une liberté de la terre. Voilà. Et ne parlez pas tous à la fois. Première question. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça implique qu'il y aurait eu une certaine liberté de la terre. Est-ce que c'est ça la difficulté qui t'a arrêté tout à l'heure ?
Non, la difficulté.
Si c'est une autre, on la verra après. Alors d'abord, cette première idée. Alors, on n'a pas encore compris. Tout le monde a compris la question ? Voilà ce que dit Rashi, en citant un midrash d'ailleurs, il a des sources. Il dit ceci, le projet du Créateur, c'est que la terre soit capable de sortir d'elle-même des arbres fruits, etspéri, c'est-à-dire des arbres dont l'arbre lui-même a le goût du fruit. On dirait par un vocabulaire contemporain, un arbre comestible. Bon. Et qu'il n'y ait pas un décalage, une histoire entre l'arbre et son fruit. Qu'il y ait un effort entre le décalage entre ces deux niveaux, l'arbre et le fruit. Et ça veut dire que le problème économique aurait été très simple. Et comment vous analysez ça sans ouvrir trop de parenthèses ? Mais enfin, je crois que c'est ça qu'il faut comprendre. On apprendra un peu plus en détail dans d'autres cours que ce qui fait la difficulté de l'histoire des hommes et les problèmes posés à la société humaine ont comme véhicule de base le problème économique. Tout le problème moral est greffé sur le problème économique. Qu'est-ce que c'est le problème économique ? C'est que nous avons besoin de manger pour exister et que la recherche de cette nourriture pose un certain nombre de problèmes de relations entre les hommes et qui fait que l'histoire de l'humanité n'arrive pas à trouver un équilibre de paix, disons pour employer tout de suite un langage messianique. Pourquoi ? Parce que le moteur des relations, c'est d'abord des relations de prestations de jouissance, c'est-à-dire le problème économique. Si l'existence humaine pouvait être garantie, comme c'est le cas au niveau des animaux en général, par des données de nature, qu'il suffit de vivre pour vivre, qu'il n'est pas nécessaire d'avoir à résoudre le problème de la subsistance pour pouvoir vivre, eh bien, le problème de la société humaine aurait une toute autre allure. Dans la notion de facilité, toutes les fautes qui se font dans la société humaine ont pour racine une nécessité économique. Et quand je dis économique, il faut le prendre dans le sens large. Le pain, c'est toutes les jouissances dont la conscience a besoin pour exister. Qu'est-ce que tu veux dire ?
Est-ce que l'arbre qui serait fruit lui-même ne serait pas en danger de disparaître, puisqu'il serait mangé, donc plus à même de produire des fruits ?
Mais c'est ça sa destinée. Okay. On n'a pas besoin qu'il produise des fruits. si il est comestible directement, c'est-à-dire la terre nous donne la nourriture. Je vous donne un exemple. Les plantes n'ont pas de problème économique. Elles se nourrissent de la lumière du soleil. Il leur suffit d'être pour être. Chlorophylle. Eh bien, alors que l'homme doit travailler pour vivre. Alors, exactement, tout le problème économique commence là. C'est que le monde n'est pas directement comestible. Il faut que je rende le monde comestible. C'est clair. C'est le Midrash qui explique. Vous rappelez? Voilà. Vous rappelez que l'essentiel de la bracha, c'est le ta'am. Vous rappelez le goût. Et la conscience ne se nourrit pas seulement de la substance de l'aliment. Elle se nourrit du goût de l'aliment. La conscience. Ce qui fait que je suis présent à moi-même. Ma personne, en fait. Vous rappelez, nous avons parlé un peu de ça à propos de la bracha. Okay? C'est-à-dire que non seulement la nourriture est nourriture, mais elle a un goût. Et c'est le goût qui fait l'importance de la nourriture pour la conscience. Sinon, nous perdrions conscience. La conscience est sollicitée par les qualités, non par les substances. Bon, c'est notre problème. Reprenez simplement, notez simplement l'expression populaire, quand quelqu'un a perdu le goût du pain, il a beau avoir du pain, s'il a perdu le goût du pain, il ne vit plus. Parce qu'il a perdu le goût de la vie. Okay? Ce mot de ta'am a plusieurs sens, vous les apprendrez par la suite. Vous verrez que l'hébreu ici catégorise tout un, rassemble ensemble un certain nombre de notions de façon très, très précise. La vie, c'est le goût de la vie. Bon, il faut découvrir cela. Alors en tout cas, la question qui s'est posée à nous, je vais l'étudier tout de suite, c'est celle-là, qu'est-ce que c'est cette idée que la terre obéisse ou désobéisse? Vous avez compris? Il y aurait là apparemment, dans ce midrash, un langage qu'on appelle anthropomorphique. On impute à la terre, qui est un objet, des conduites de l'homme, anthropomorphique. Vous connaissez ce mot-là? Bon. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est ceci. C'est que dès l'origine, il y a, entre le créateur et la création en général, une relation de liberté. Et ici, nous sommes à peine au troisième jour, il n'y a pas d'homme, encore. Hein? Alors tout se passe comme ci. Toute cette liberté diffuse. Liberté, ça veut dire quoi? Plasticité de possibilité de réagir de façon différente. Si vous voyez à peu près le couple de termes, action-réaction, dans un monde complètement déterminé, la réaction est automatique par rapport à l'action. Dans un monde où il y a plus de liberté, il y a une indifférenciation de la réaction par rapport à l'action. Excitation-réaction. Vous comprenez ce que je dis? Le projet, c'est l'excitation. Qu'il y ait. Alors, si la Terre, le monde, a une certaine autonomie, eh bien, le monde réagit à sa manière, comme ça ou autrement. Bon, alors on apprend qu'il y a, par postulat encore, hein, c'est pas démontré, c'est le postulat que j'essaie d'expliquer. On apprend que d'après ces midrash, il y aurait à l'origine une sorte de liberté diffuse dans les mondes, et que de plus en plus, cette liberté se restreint. Et la périphérie devient opaque, déterminée, elle se réfugie à l'intérieur, à l'intérieur, à l'intérieur, et en fin de compte, la part de liberté qu'il y avait dans le monde entier ne reste plus que dans la personne humaine. Et tout le reste, le monde extérieur, est déterminé. C'est ce qu'on a appris à la fin du sixième jour. Vous vous rappelez? Et que le monde devient Teva. C'est clair? Pour bien comprendre cette idée, nous la prenons par postulat, il faut d'abord comprendre sa finalité. Et pourquoi la créature est libre? Pourquoi Dieu ne nous crée pas parfaits absolument? Tant le monde qui nous entoure que nous. Okay? Là, c'est un des principes essentiels du judaïsme qui se découvrira et qui traversera l'ensemble de tout ce que nous avons étudié. C'est parce que pour que la créature existe vraiment, il faut qu'elle le mérite par elle-même, qu'elle en obtienne le droit par elle-même. Et pour ça, il faut qu'elle soit libre. Est-ce que c'est correct?
Mais ça, c'était si bien long.
Non, mais ça commence depuis le début. Finalement, qu'est-ce que c'est que l'homme? L'homme, c'est le monde devenu homme. Et c'est clair cette idée? Donc il y a une raison pour laquelle il fallait que le monde soit libre. Ce qu'il fallait que nous découvrions, nous, c'est que, admettons, par postulat, que l'homme soit libre. Qu'est-ce que c'est cette idée que la terre soit libre? Alors je vous dis, il faut avoir une perspective un peu plus large à laquelle... C'est celle à laquelle nous sommes habitués. Justement, je vais vous parler du problème de l'habitude. C'est-à-dire l'être du monde s'habitue à être comme il s'habitue à être. Il devient ce qu'il devient. Mais une fois qu'il le devient, l'habitude fixe cela. Le fonctionnement du monde peut être compris, pour nous aider à comprendre cette idée, comme le résultat de l'acquisition d'une habitude d'être de cette manière et pas d'une autre. Vous suivez ? Bon. À l'origine, qu'est-ce que c'est que l'habitude ? C'est un acte volontaire libre qui, à force de répétition, devient automatique et déterminé. Enfin, pas déterminé vraiment, parce qu'on peut briser cette détermination de l'habitude, mais il faut effort. Vous voyez ? L'habitude, l'acte habituel ou habitué, c'est le résultat de la répétition d'un acte qui a été libre à l'origine. Vous suivez ? Voilà. Alors, essayons de considérer l'idée de la loi de la nature comme le résultat d'une habitude. Que le monde s'est habitué à être comme ça, mais une fois qu'il s'est habitué, c'est comme ça qu'il fonctionne. Nous aurons à reprendre cette notion-là dans notre cours. Mais simplement, je la relis à notre question ici. En vous donnant peut-être un petit exemple. Je crois que les enfants ont gardé un peu le sens de cette notion. Quand on découvre la manière dont le monde fonctionne, eh bien, on a un petit sentiment intérieur. Ça aurait pu être autrement. Par exemple, je vais vous rappeler comment moi, la première fois, j'ai pensé à ça, je ne sais plus quel âge j'avais. J'ai regardé une fois, très intensément, le robinet. Vous voyez, dans les cuisines, maintenant les tuyaux, c'est dans les murs, mais avant, on avait des tuyaux hors des murs, dans des lampes à huile. Il y avait un tuyau, et puis un robinet. Et j'ai regardé ça, dit, enfin, pourquoi l'eau coule dans le tuyau ? Et pourquoi ne pas nous serions, la poétique, pourquoi ne serions pas dans un monde où l'eau coulerait autour du tuyau ? Ça serait un monde joli. Bon. Alors voilà. Et puis, n'importe quoi. Pourquoi la pomme a la couleur qu'elle a ? Pourquoi la grenade a la forme qu'elle a ? Pourquoi la banane est comme ça ou autrement ? Pourquoi ? Sauf c'est comme ça. Mais il n'y a rien qui, a priori, obligerait que ça soit comme ça. Donc, c'est peut-être le résultat d'une habitude d'être. La banane est devenue banane. Ça que j'appelle la banane, c'est devenu comme ça. Mais une fois que c'est comme ça que ça fonctionne. Vous suivez ? Donc on peut s'approcher de l'idée qu'à l'origine, il y a une liberté indifférenciée et à force d'habitude, elle se cristallise, elle se pacifie, elle se détermine d'une certaine manière. Mais une fois que c'est arrivé à un certain stade d'habitude, c'est comme ça que c'est. Alors ça fonctionne. Bon, ça on étudiera, lorsqu'on étudiera la théorie selon la Torah de qu'est-ce que c'est une loi de la nature. Et on aura à la confronter avec les grandes théories épistémologiques, pas seulement philosophiques, scientifiques. Qu'est-ce que c'est une loi de la nature ? On verra l'opinion des réalistes, des matérialistes, des idéalistes, des rationalistes, des tout ce que vous voudrez, enistes. Et puis on verra aussi ce que dit la Torah. Qu'est-ce que c'est une loi de la nature ? Est-ce qu'elle est déterminée a priori, déterminée a posteriori ? D'où ça vient ? Pourquoi les choses fonctionnent comme ça ? Est-ce que la Torah a une opinion ? Bon, ça c'est le problème pour lui-même. Vous voyez cette idée qu'il y a une sorte d'autonomie de la créature et la capacité de ne pas répondre au projet du créateur. C'est ça qu'il faut surtout comprendre de manière juive. C'est un risque énorme que le Créateur a pris. Il crée un monde libre et le monde peut devenir ce qu'il est devenu. Vous savez, les seuls penseurs contemporains qui se penchent sur ce problème, c'est ce qu'on appelle les écologistes. Et c'est une nouvelle science, pas science, c'est plus qu'une science, une nouvelle philosophie très importante. Et un jour, je vous ferai venir un spécialiste de ces choses-là qui vous dira des choses étonnantes. Finalement, d'un peu partout, nous recevons des livres, des articles ou des communications que les écologistes sont en train de deviner que peut-être, s'il y a une doctrine au monde qui peut résoudre leurs problèmes, c'est le judaïsme. Parce que l'écologie est une certaine vision unifiante de tous les phénomènes. Que le problème de la pollution, c'est un des problèmes qui a ses propres causes. Le problème de la guerre est un des problèmes qui a ses propres causes. Le problème de la faim dans le monde, la démographie, tout cela, c'est un des problèmes. Et qu'on ne peut pas... dès qu'on essaie de résoudre un, il y a l'autre qui devient plus grave. Et qu'on ne peut pas se mesurer à l'état des choses que si on ne se mesure pas dans une perspective unifiante de tout à la fois. Bon, je viens de lire d'ailleurs récemment un article d'un prix Nobel, un Allemand, Lorenz, qui s'appelle, qui dit ça comme ça, vous avez entendu parler de lui, qui dit comme ça naïvement, peut-être que c'est dans le judaïsme qu'on va trouver la solution. Bon, on va se mettre en rapport avec lui. Mais non, il mérite qu'on l'invite. C'est une invite à Sion. Mais non, là, la quelques idées. Et voilà, cette idée que finalement, il y a un fonctionnement du monde qui s'habitue à devenir ce qu'il est, et puis le résultat, c'est tous ces déchets qu'il y a sur la planète. Mais ces déchets, ils n'étaient pas dans le projet du Créateur. Oui. Alors, cette autonomie a une finalité. Il était nécessaire que le Créateur prenne ce risque, parce que pour que sa créature soit vraiment, et c'est ça l'intuition hébraïque la plus profonde, la plus fondamentale, il veut que sa créature soit, mais pour qu'elle soit vraiment, il ne suffit pas qu'il lui ait fait cadeau de l'être. Elle n'est pas encore, elle n'est que parce que lui l'a créée. Il faut qu'elle mérite par elle-même. C'est ça, autonomie. Vraiment. C'est clair ? Je vais donner un petit exemple dans un tout autre domaine. Dans une usine qui fonctionne normalement, normalement le directeur de l'usine doit savoir à quel moment il doit augmenter ses ouvriers. Sinon l'usine ne peut pas fonctionner. Bon, c'est clair. Or il ne le fait pas. Pourquoi ? Parce qu'il doit attendre que les ouvriers le réclament. Parce que, même si ça coûte une grève, pourquoi ? Parce que s'il le donne, l'ouvrier ne peut pas être satisfait. Il n'a pas l'expérience que c'est à lui. Cadeau, c'est pas à moi. Bon, je vous ai un peu éclairé par cet exemple. Et c'est normal qu'on attende que le syndicat décide, tape sur la table, et le directeur se laisse faire avec un petit sourire dans le coin. C'est ça que je voulais faire, mais j'attendais que vous décidiez. Vous avez compris le problème. Rien à voir avec le problème d'une école. Et alors, j'ai beaucoup réfléchi sur ce problème de la nécessité des syndicats. C'est absolument nécessaire pour que la société fonctionne. Parce que sinon, c'est du paternalisme inefficace. Okay ? Il y a des directeurs d'usines qui sont complètement paternalistes, enfin pas à leur place, et alors ils ne se rendent pas compte de ça. Et ils ont l'imprudence de décider par eux-mêmes à partir de temps vous gagnerez plus. En général, l'usine fait faillite. Bon, c'est un autre problème. Qu'est-ce que tu veux
dire ? André, vous parlez de deux autonomies. Une espèce d'autonomie première qui est donnée à la paix pour qu'elle puisse réagir à sa manière.
Oui.
Et l'autonomie qu'elle acquiert ensuite.
Tu as raison. C'est deux sens du même mot, mais les deux choses sont très liées. En vue de l'une, il y a l'autre. En vue de l'autonomie à acquérir, il y a cette liberté première. C'est très lié. C'est pour ça. C'est clair ? Bon. Alors oui, avec la tranquillité, Rachid nous parle de la liberté de la terre. Bon, il y a la fin du Rachid qui est un peu plus difficile. On va quand même la lire. Jusque-là, c'est clair ? Alors, tu lis la suite. Bekicha, c'est pourquoi ? Nitkalkel. Ah, si, halolo. Tu as raison, Nitkalkel.
Nitkalkel, Adam,
Aouno.
Nifida Gamiki
Al-Avona
Aona
Venitkalala. Alors je vous traduis ce Rashi pour qu'on donne un peu de temps. Et c'est pourquoi, continue Rashi en citant le Midrash. Et c'est pourquoi, lorsque l'homme a été maudit, Al-Avono a reçu la malédiction qui était la sanction de sa faute à lui, l'homme, et n'a pu fauter que parce qu'il était libre. Okay? Alors, Nifkeda Gamei, elle aussi, la faute de la terre, a été jugée à ce moment-là, on en a tenu compte, plus exactement, Ve Al-Ravona, pour sa propre faute, Ve Nifkalela, et elle a été aussi maudite, et la malédiction, c'est quoi ? C'est que ce Chem devient un abîme. Cette petite différence qu'il pouvait y avoir à l'origine entre le projet et la réalisation devient une différence énorme. Je vais vous donner des exemples dans le Midrash. Une des formules que vous rencontrerez dans le texte, quand la terre est maudite à cause de la conduite de l'homme, écologie, hein, la terre est maudite à cause de la conduite de l'homme. Et elle se venge finalement, elle tremble, ça s'appelle les tremblements de terre. Eh bien, il y a l'expression « Vekot vedardar tatimiach lecha ». Elle te fera germer des ronces et des chardons, hein, les cactus. Non, pas des cactus, mais vraiment des « Kot vedardar ». Comment vous appelez ça en français ?
Des
ronces, des épines. Okay ? Bon. Et est-ce que vous croyez vraiment ? Il y a un célèbre passage dans le prophète Isaïe, si vous connaissez déjà toute la Bible par cœur, vous verrez à quel point c'est important dans Isaïe, où Dieu se plaint, il dit « Madouar qui vêtit la asot anavim, vaya as beouchif » Il se plaint, les Juifs viennent se plaindre devant lui. Okay ? Alors il a dit, bon, allez, on va faire un jugement. Moi aussi j'ai à me plaindre. Pourquoi j'ai voulu faire des raisins et il est sorti des ronces? En parlant d'Israël, il y a une certaine liberté qui fait que le projet, c'était des raisins, en avim. Enfin, on peut lire en avim avec le vav ou le libé. J'ai voulu faire des ondes humbles, il m'est sorti des... En avim, il y a deux mots. C'est pour ceux qui savent les mots. Et vous voyez, il y a... je me rappelle d'un poème de Victor Hugo, dans La Légende des siècles. Et où il met en poème, comme ça, une sorte de marche entre Dieu et Satan. Bon, ça c'est du Victor Hugo, hein, c'est pas du reste. Bon. Et alors, à qui créer la créature la plus extraordinaire? À bout d'efforts et de Mahamat, à bout d'efforts, finalement Satan arrive à créer une araignée. Dieu la regarde, ça devient un soleil. C'est un très joli poème. Bien. Mais c'est un peu l'inverse qui est arrivé là. Bien. Dieu a voulu créer des soleils et c'est devenu des araignées. Tombez pas dans l'erreur de croire, ça c'est Victor Hugo, que c'est Satan qui a fait ça. C'est le monde qui a fait ça. C'est clair. C'est le monde qui a fait de lui ça. Vous voyez, ce problème du décalage de ce que je vous ai appelé aussi le déchet qui vient de l'approximation. Rien à voir avec le déchet de ce, en hébreu. Le tapis végétal. Bien. Vous avez compris l'idée? Bien. Et alors, c'est quand l'homme légalise cela, assume cela, que ça se dévoile. C'est la liberté de l'homme qui fait dévoiler ce problème. Bon, vous voyez, tout ça comme programme d'étude dans ce petit Rachid, hein, mais retenez l'idée essentielle. Simplement, Rachid va s'accrocher à une des aspérités du texte pour nous dire, voilà un exemple du chèvre. Enfin, c'est moi qui interprète comme ça, mais vous comprenez l'idée. Hein, voilà un exemple de ce chèvre. Nous allons avoir un tout autre exemple, beaucoup plus important, dans le deuxième. Exemple que je vous ai demandé, vous avez pu remarquer, et là, c'est pas la différence entre l'arbre fruit et l'arbre portant de fruits qui ouvre un problème énorme. C'est finalement la difficulté du problème économique. Lorsque les prophéties concernant le temps messianique parlent, elles nous parlent finalement, apparemment naïvement, mais très profondément de cela. Le problème économique sera résolu, on pourra vivre enfin. Et on nous dit sous forme apparemment imagée, mais c'est pas imagé. Vous verrez que ça commence, que ça commencera. C'est que les paquets de nouilles pousseront sur les arbres. Okay. Les spaghettis sur les arbres. Il n'y a pas longtemps, je suis allé au marché et on m'a parlé d'une citrouille qu'on vient d'inventer en Israël. Vous connaissez ça? Okay. Qui chose petit. On l'ouvre, c'est des spaghettis. Et c'est des spaghettis pour ceux qui ont besoin d'une, comment dire, diète. Bon, non, je plaisante. Je plaisante pas tellement bien. Ça veut dire que l'idée qu'il y a là, c'est que la technique humaine peut arriver à cela, à ce que le problème économique soit résolu, et que on se nourrisse un peu à la manière de la plante qui se nourrit de la lumière du soleil, et qu'on se nourrisse en respirant. Donc, on respirera quoi? On verra bien. Alors, les savants futuristes nous diront de quoi la technique humaine est capable. Je parlerai d'un problème très simple sur lequel on reviendra souvent. Le problème de la faim dans le monde. S'il y a une troisième guerre mondiale un jour, un des risques les plus évidents, c'est à cause de ce problème de la faim dans le monde. C'est-à-dire, ça risque d'être la guerre des pays non nantis, comme on appelle ça, tout développé, si vous voulez, avec les pays riches. Et dans les pays riches, il y aura Russie et Amérique du même côté. Et une espèce de révolte des pays du tiers du quatrième monde contre les pays du Nord. Le Sud contre le Nord. Okay. Beaucoup plus que l'Est contre l'Ouest. Parce qu'il y a actuellement une situation qui ne peut pas durer longtemps. Vous avez une petite partie de l'humanité qui mange plus qu'à sa faim et l'autre grande partie de l'humanité qui n'a pas sur sa table ce qui reste dans les poubelles des autres. Bon. Une situation pareille, ça ne peut pas durer longtemps. Il suffira qu'un de ces petits pays un jour ait la bombe atomique, et puis on verra ce qu'on verra. Bon. Vous comprenez le problème. Or, d'autre part, il est évident que les sciences et les techniques actuelles ont suffisamment de capacité pour que tout le monde mange à sa faim. Qu'est-ce qui ne marche pas? Le problème moral, tout simplement. Vous voyez, c'est ce que dit Rachid. c'est la faute de l'homme qui dévoile la punition de la faute de la terre. Ce décalage, en ne parlant que de ce décalage du problème économique. Mais l'autre exemple, qu'on étudiera un autre jour, c'est le résultat de la différence, non pas entre un arbre fruit et un arbre porteur de fruits, mais entre le serpent et l'homme, si vous avez bien compris ce qui se passe dans ces deux versets-là. Bien. Que la terre n'a pu sortir d'elle-même que le serpent, alors que le projet était de l'homme. Vous avez remarqué ce décalage? Et c'est là qu'on étudiera tous les fameux problèmes de l'évolutionnisme et toutes ces histoires-là. Okay. Bon, alors je crois qu'on a gasté d'illustrations de ce Vayichen. Vous voyez, c'est clair? Bon, qu'est-ce que vous voulez dire rapidement, si vous en suivez?
Oui, c'est par rapport à la situation. J'ai du mal à intégrer la décision de Dieu, dans la mesure où au début, il accepte, disons, le décalage, aussi bien pour la terre. Donc l'homme arrive derrière avec un certain décalage, des résidus, une terre qui ne produit pas vraiment ce qu'elle doit produire, donc des difficultés. Il a en plus le libre arbitre, donc il va côté, et derrière ça, malédiction. Alors en fin de compte, il y avait un petit abîme, et puis Dieu, qu'est-ce qu'il fait?